Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis pour débriefer l'actu de la petite balle jaune sur Eurosport.fr. Vous avez peut-être suivi tout au long de la quinzaine de Roland-Garros, mais nous revoilà ce mardi pour reprendre un rythme hebdomadaire. Je suis Sébastien Petit et cette semaine, pour débriefer sur Roland-Garros et faire la bascule terre battue gazon, je retrouve notre consultant Arnaud Di Pasquale et deux journalistes de la rédaction, Bertrand Mignard et Maxime Matissella. Bonjour à tous les trois.
Salut.
À tous.
Ah, j'ai l'impression qu'on ne se quitte plus. Hein, vous êtes remis de vos émotions?
Ça va.
Ça va, oui.
On récupère doucement.
Oui, c'est...
Vous êtes réenchaîné.
Ouais, c'est ça. On est dans un petit sas de décompression, là. Ça va.
Non, moi, je ne me suis pas remis encore de samedi, mais...
Cette semaine, nous allons tourner quand même la page de Roland-Garros pour de bon. Cette fois-ci, après avoir parlé de cette finale Djokovic-Rude de dimanche, nous allons donner un dernier coup d'œil dans le rétro avec ce qui nous a plu et déplu pendant cette quinzaine, avec un petit débat en toile de fond pour ou contre les 6 sur nuit à Roland-Garros. Et enfin, nous prendrons la direction de la saison sur gazon qui a déjà débuté. Les pieds dans l'herbe, les fraises à la main et les lunettes de soleil sur le nez. Hein. Par exemple, Djokovic, lui, attend de savoir qui pourra venir le chatouiller à Wimbledon. Lui, il restera à la fraîche hein, d'ici là, après sa débauche d'énergie, car mine de rien, les revenants sont nombreux, vous le verrez, cette semaine. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous écouter, vous abonner pour recevoir l'émission sur votre smartphone. Et sachez également, des extraits vidéo des meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Eh bien, je crois que les joueurs sont prêts. Alors, Deep Impact, c'est parti! Roland-Garros 2023 a donc fermé ses portes sur les sacres individuels de Novak Djokovic et Iga Świątek. De résultats assez logiques. En fin de compte, même si ça déplaît à Bertrand, 630 000 spectateurs s'y sont pressés cette année, c'est un record pour le tournoi qui s'est agrandi et embelli quand même de façon indéniable depuis 2 ans. L'année prochaine, même le cours Suzanne Lenglen aura un toit en fonctionnement pour l'édition 2024 et aussi pour les Jeux Olympiques de Paris qui accueilleront les compétitions de tennis. Alors on va commencer par un petit coup d'œil dans le rétro. Arnaud, pour commencer, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, plus en fait, dans cette édition?
Bon, y a plein de choses, mais après, si je m'arrête sur un match, le match pour lequel j'ai peut-être le plus vibré, c'est la remontada de Gaël Monfils. Voilà, là, c'est non, mais ce qui s'est passé, c'était du grand n'importe quoi. Il a mené 4-0, balle de 5-0 contre Baez au 5e, et là, un public en folie, lui qui arrive à rejouer. Alors après, je ne parle pas de la suite, mais sur ce match, c'était quand même une folie à tous les niveaux, enfin, dans l'ambiance. Dans sa volonté d'aller chercher cette victoire, elle était importante pour lui. Et voilà, donc ça, c'est peut-être le moment sur lequel, alors parce qu'en plus, je l'ai commenté, mais j'ai vécu beaucoup d'émotions. Voilà, tu finis un match comme ça, il faut du temps pour te calmer, pour redescendre.
Bertrand, qu'est-ce qui t'a plu
Qu'est-ce qui m'a plu? Bah, c'est facile. Moi, c'est le parcours, évidemment, de Karolina Muchova qui m'a plu, puisque c'est une de mes joueuses préférées que je suis depuis longtemps, qui est... Moi, mes joueuses préférées, on parlait beaucoup avec Maxime pendant la quinzaine, c'est souvent des placés, pas toujours des gagnants, hormis Federer, mais c'est souvent des joueurs qui avaient un talent, qui étaient placés. Je pense à Henri Lecomte, et Messire à l'époque. Voilà, je vais pas citer tout le monde, mais c'est souvent des gens qui ont beaucoup de talent, de tennistique, mais qui vont pas avoir la rigueur nécessaire pour aller au bout d'un tournoi. Et là, donc du grand chelem en tout cas. Et là, Karolina Muchova a failli me faire mentir. Ça avait passé pas loin, hein, 4-4, Val de Break au 3e en finale. Donc j'avais dit avec un peu d'humour en début de quinzaine, avec les groupes WhatsApp de Deep Impact, de toute façon, vous inquiétez pas, celle qui avait gagné le tournoi, etc. C'était évidemment pour plaisanter, mais il y avait aussi quand même, je voyais son parcours, ayant éliminé Sakkari au premier tour, bah, elle ouvrait son tableau et elle a su en tirer parti jusqu'en finale quand même. Le match de la quinzaine pour moi, c'est Sabalenka-Muchova, la demi-finale dames, et un match extraordinaire de plus de 3 heures. T'as très très bon niveau de tennis féminin, très intense, à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc moi, ça a été le match de la quinzaine pour moi. Et puis en finale, elle a réussi à rééditer un gros match quand même, hein, face à Swiatek, qui est quand même vraiment la patronne sur Terre, et jusqu'à la faire douter, jusqu'à pas passer très loin. Donc moi, c'est mon gros coup de cœur évidemment de la quinzaine, et j'espère qu'elle va se reposer, mais j'espère aussi qu'elle va bien enchaîner sur gazon, parce que c'est une surface qui va particulièrement, normalement, la faire briller. Enfin, elle a déjà fait quart à Wimbledon, mais c'est une surface sur laquelle elle doit se sentir, avec son jeu, normalement très à l'aise.
Et Maxime, ton coup de cœur?
Mes deux collègues m'ont volé
Aïe, mince.
les deux moments préférés de ma quinzaine aussi. Évidemment, Gaël, j'étais sur le court. Alors, c'était absolument extraordinaire. J'ai jamais entendu à Roland-Garros une ambiance comme ça sur le court Philippe Chatrier. Donc ça m'avait marqué. Et évidemment, je suis tombé aussi amoureux de Mourova parce que j'ai été influencé par Bertrand Millard, mais aussi parce que j'adore ce tennis-là. Non, moi, je voulais revenir sur une belle histoire pour moi, qui est l'histoire d'Alexander Zverev. Un an après sa terrible blessure, on avait tous entendu son cri, hein, sur le court Philippe Chatrier. C'était assez glaçant, ce cri, quand il était tombé après s'être déchiré trois ligaments de la cheville droite, hein, contre Rafael Nadal lors de ce fameux match. Eh ben, il a, comment dire, il a vaincu son appréhension. Non seulement il est revenu sur le court central, mais il a gagné plusieurs fois. Il est allé jusqu'en demi-finale comme l'année dernière. Bon, physiquement sur la fin, c'était un peu compliqué pour lui, mais je trouve que symboliquement, c'est un super retour pour lui, et ça annonce sûrement un retour progressif sur le devant de la scène dans les mois à venir. Donc c'est plutôt sympa.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais pendant cette quinzaine, les matchs en 5-7 ont été assez nombreux pendant ce Roland-Garros, notamment en première semaine. En première semaine, il y a eu 30 matchs en 5-7, à 2 matchs du record de l'édition de 92 de Roland-Garros. Et il y en a eu aussi 21 sur le seul premier tour, ce qui était là un record en Grand Chelem. Mais on va relativiser ça avec une stat que nous donne notre partenaire Jeux 7 Maths. Concernant dans ces 5-7, pour la deuxième fois sur les 15 dernières éditions, seulement un seul match en 5-7 s'est joué en seconde semaine de Roland-Garros. Est-ce que vous vous rappelez de ce match?
Le seul match en 5-7?
Je prends de quoi,
En deuxième semaine, match en
hein?
5-7.
Oui, Rune Cerundolo.
Bravo!
Bravo,
C'est un des meilleurs matchs de la quinzaine, d'ailleurs.
Qui
En
était
plus,
aussi
c'était
un
très
super
bon.
match, voilà, qui s'est terminé en plus au super tie-break,
Énorme match.
qui montre, voilà, ça fait encore un peu la pub pour les matchs en 5-7 qui reste quand même une pépite, hein, dans ce sport.
Bah,
Vous êtes d'accord
évidemment.
avec moi?
Ah oui, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne sais même pas
Non,
pourquoi
c'est
certains
sûr.
en pensent. Mais de toute façon, si on a supprimé 5-7 en Grand Chelem, qu'est-ce qui différenciera un Grand Chelem d'un tournoi
Bah, rien.
normal? Donc voilà.
C'est sûr.
Et
Et
puis,
puis, enfin, juste un petit paradoxe, je me souviens que sur le sujet, il y a 2-3 ans, Djokovic s'était exprimé pour justement la suppression des 5-7, ou en tout cas dans une partie du tournoi, peut-être sur les premiers tours des 5-7. Et moi, je trouve ça d'autant plus ahurissant que lui, le format des 5-7, c'est ce qui le favorise absolument et qu'il maîtrise à la perfection. Donc c'est bizarre, mais enfin, bon, c'est comme ça.
Et on pourra aussi ajouter un autre match aussi qui a été très très marquant, c'est le Sinner-Altmaier au deuxième tour, hein, qui a
Ah
duré
oui,
quasiment
non,
5 heures et demie.
superbe match. Alors, franchement, celui-là était extraordinaire. Et d'ailleurs, vous vous
C'est
rendez compte,
peut-être même le
l'affiche.
meilleur de la quinzaine. Je ne sais
C'est
pas
peut-être
ce
le
que
meilleur
vous
de
en
la
pensez.
quinzaine, je suis d'accord, je suis
Ouais.
d'accord. Et en plus, le public était complètement dingue, était vraiment très très chaud sur ce match. Alors que l'affiche à la base, hein, Sinner, c'est pas un gros charisme, Altmaier est inconnu du grand public, donc ça n'a rien à faire soulever les foules. Et pourtant, parfois, il suffit de très bien jouer au tennis pour faire soulever la foule. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que du côté public, il y a eu des choses aussi malheureusement très désagréables. Mais sur ce match-là, le public a été magnifique, vraiment. Et d'ailleurs, jusqu'à faire pleurer Altmaier dans son interview d'après-match. Parce que il a été transporté par le niveau de jeu. Et ça, j'ai trouvé ça effectivement assez extraordinaire. Notez que le public du Langlais est souvent quand même composé de gens plus connaisseurs que le public du Central.
Après,
Alors,
les matchs en 5-7, ça dépasse le cadre du niveau de jeu. C'est-à-dire que le cinquième
oui.
set, tu en oublies un peu, ce que tu vois, c'est la dramaturgie, ce que tu vois, c'est le rebondissement, ce que tu vois, en fait, tu te rends compte de la difficulté parce que tu imagines la fatigue au bout de 4 heures, 4 heures et demie de jeu et tu te dis comment c'est encore possible de pouvoir jouer de cette manière, courir, ramener ça, aller sur cette amortie, reculer, jouer ce revers le long de la ligne. Moi, je trouve que ça devient en fait vraiment un truc où tu prends conscience, je sais pas, de ce truc complètement extraordinaire que nous proposent en fait ces athlètes de haut niveau. Enfin, c'est surtout ça.
Ouais, mais là, c'était vraiment, je suis d'accord, hein,
En
mais c'était
plus, non, mais
vraiment
j'entends.
un super niveau de jeu.
Ouais, j'entends, mais en fait, je sais pas si on le regarde, enfin, si le regard est le même que sur un premier ou sur un deuxième set, évidemment que non. Tu vois, ce cinquième, tu le vois toujours autrement.
Vois,
Forcément.
dis Pasquale Mirny, par exemple, on prend un exemple. Bon, bah,
C'était
on va Mirny,
niveau
il
de jeu
coule
très
physiquement,
mauvais.
Mirny. Il coule physiquement, donc au cinquième, finalement, bon, bah, dis Pasquale, largement au-dessus, Mirny ne peut plus, il a enchaîné service volé, il se fait passer, retour dans les pieds, passing, c'était l'enfer. Il n'y avait pas de match au cinquième, alors que là, il y avait vraiment un match, c'était très, 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 très chaud.
Non, mais t'as raison. Mais non, mais c'est pour ça que, après, je pense que c'est quand t'es au coude à coude et que même si le niveau de jeu est moyen, je pense que t'es happé
Oui,
par
t'as
la
raison. On peut
passe.
pas. On parlait du
C'est
run
difficile en fait.
Cerundolo. On parlait du run Cerundolo. C'est un peu ça. C'est-à-dire
Et
que
c'était génial. Ce
c'était
cinquième set, il est
génial,
génial.
mais ils avaient tous les deux une peur de gagner, surtout Cerundolo, qui a eu des
Ah oui.
occasions de
Incroyable.
conclure incroyables, et le bras tremblait. Il n'arrivait plus à aligner un coup droit correct. Donc c'est vrai que il y a une dramaturgie et il y a comment dire, une prépondérance du mental dans le cinquième set qui est quand même extraordinaire.
D'où la victoire de Deep contre Mirny d'ailleurs.
D'où la victoire de Rune
Ouais.
contre Cerundolo.
Et s'il y a quelque chose de négatif que vous retiendrez de cette édition, ce serait quoi, Arnaud?
Je sais pas, on a beaucoup beaucoup parlé du public qui a été border hein, à certains endroits avec ouais, de nombreuses reprises. J'ai trouvé ça assez étonnant en fait. J'arrive pas à comprendre pour tout vous dire. Moi, alors après, c'est l'effet de foule, de masse comme ça. Et c'est vrai qu'il suffit que tu en aies 10, 15, 20 qui s'y mettent. Et puis derrière, tu as l'impression que tu as tout le monde qui suit un peu bêtement. Mais à des moments importants, je veux dire, même, tu vois, je sais pas, sur la finale, quand c'est Djoko pour le
Ouais.
23e, je peux pas entendre ça. C'est pas possible. On
Sur
peut
la fin,
pas.
c'était insupportable. J'étais sur le central, c'était
Pour
insupportable
non,
sur
mais
la
pour les amoureux du tennis, du sport, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais que tu l'aimes un peu moins que les autres, on s'en fout. Il est en train de gravir l'Everest, là, quand il fait ça. Et tu dois juste applaudir et te dire que c'est fantastique et extraordinaire et penser à ce moment de sport qu'on est en train de vivre. Point. Et c'est là où j'ai du mal. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Et il y en a eu d'autres, hein, de moments, on va pas tous les énumérer, mais il y en a eu pas mal. Alors, il y a eu Fritz, quand même, où
Hey.
ça, c'était assez
Cela
cocasse
dit,
de la façon
il avait
dont
un peu cherché aussi,
il a été provoque, mais quand
hein.
même. À un moment, ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. C'est pas normal, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Je trouve que
Maxime,
ça allait trop loin cette année.
moi je suis totalement d'accord avec Arnaud, c'était ce qui m'avait gêné le plus, le public, sur certaines séquences, hein, parce qu'il a été formidable sur d'autres séquences. Mais il y a une autre grosse déception, c'est cette demi-finale, Djokovic-Alcaraz. C'est plutôt Alcaraz en fait la déception. Parce que on en attendait beaucoup. On attendait une immense bataille en 5-7. Laurent Vergne avait appelé ça le blockbuster de transition après les Federer Nadal, les Djokovic Nadal, les Federer Djokovic. Donc le Djokovic Alcaraz, on se disait, ça peut atteindre ce niveau-là. Ça peut être épique, ça peut faire 5-7. Quand Alcaraz égalise à un set partout, que Djoko donne des signes un peu de faiblesse physique, on se dit, ah bah là, ça peut entrer dans une dimension extraordinaire, et puis patatras. Les crampes de stress, Alcaraz qui avoue après en conférence de presse que Djokovic l'a fait réfléchir beaucoup, qu'il n'avait même pas pu, ça je l'ai su après, nos confrères espagnols qui disaient qu'il n'avait même pas pu manger avant, enfin, il avait fallu le forcer, pardon, à manger. Donc ce stress-là, ce côté, je vais être dur, mais junior, mais en tout cas il a fait son âge à ce moment-là, alors qu'on s'attendait plus à ça de sa part. On s'attendait vraiment à ce qu'il rentre sans complexe et que ça donne un match gigantesque. C'est ma grosse déception de la quinzaine, et j'ai envie de dire que ça a un peu détruit la fin du tournoi masculin, parce que même si on aime beaucoup Casper Ruud et qu'il a fait un très bon match dimanche, on savait tous que ce serait vraiment une grosse montagne, enfin un Everest pour lui, plus que pour Djokovic, à surmonter cette finale.
Mais globalement, pardon, juste, et après Bertrand, je te laisse, mais globalement, chez les hommes, toutes les grandes affiches ont fait un peu pchit.
Exactement, l'Alcaraz Tsitsipas a été très
Mais même,
décevant.
on attendait Alcaraz Musetti, bam, c'est, je veux dire,
Exactement.
il y en a eu plein comme ça, on les attendait. Et ça a fait match à sens unique à chaque fois.
Et j'ai envie de dire que le tournoi féminin a été bien plus intéressant.
Ouais. Grâce à Bertrand. Voilà,
Et c'est
exactement.
une constante depuis le début de saison. L'Open
Ouais.
d'Australie, c'était pareil. À l'Open d'Australie, c'était pareil. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est un changement de perspective par rapport à ce qu'on dit depuis des années qui est évident sur cette année 2023.
Oui, parce qu'il y a un rapprochement effectivement derrière Ziatek qui même a été contesté en finale. Après, j'irai pour accentuer la déception de Maxime, je vais aller jusqu'à la conférence de presse. Moi, j'étais aussi déçu après ce match par un petit peu par les propos d'Alcaraz. Je l'ai déjà dit dans les Deep Impact quotidiens, mais je trouve qu'il s'est trop livré. Je trouve qu'il a trop dit la vérité, qu'il a trop montré sa peur. Alors, tout le monde a vu que c'était des crampes de stress, mais il peut le tourner autrement, je pense, de dire oui, c'est parce que c'est Djokovic et la prochaine fois que je vais jouer, je serai encore très nerveux. J'ai pas à souvenir. Alors, il n'a pas de certaine, il a peut-être pas du tout envie d'être comparé au Big 3, et même s'il a dit qu'il voulait rentrer dans l'histoire. Mais moi, j'ai jamais entendu Novak Djokovic à l'époque, alors qu'il avait déjà Federer et Nadal, deux monstres avant lui, dire ouais, j'ai eu peur d'affronter Federer ou Nadal, j'étais nerveux parce que je les jouais eux, etc. Au contraire, il a toujours dit moi, ce que je veux, c'est les battre, ces gars-là, je veux être plus fort, je veux être le plus fort des trois, etc. Même à 19 ans, il avait déjà un discours extrêmement
Je
de
veux être numéro
winner.
un à 19
Ouais,
ans, il
mais il
part.
annonçait déjà la couleur. Et en fait, je pense que quelque part, on dit il est arrogant, mais d'un autre côté aussi, on se dit, ouais, celui-là, quand même, c'est incroyable le discours qu'il a. Et bah, non, il faut tenir après sur le court. Mais je pense que ça t'aide justement aussi. Et quand tu as ce discours-là, guerrier, ça aide aussi derrière à l'être aussi sur le court. Alors que là, Carlos Alcaraz, mais j'ai trouvé qu'en conférence de presse, il faisait un peu petit garçon. Et que petit garçon qui est encore là, qui regarde encore le maître et qui se dit, bah oui, par rapport à tous les autres joueurs, là, pour l'instant, il n'y a pas de problème, je suis au-dessus et j'ai pas peur. Et lui, quand même, là, avec ses 22 grands chelems, bientôt 23, bah, il me fait peur et je le dis. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Chacun est comme il est, bien évidemment. On lui demande pas d'être Djokovic ou d'être Nadal ou même Federer. Mais. Un petit peu décevant dans l'image qu'on peut avoir d'un gars qui commence à beaucoup dominer et à peut-être être le futur patron. Voilà, et ça c'était et aussi bon, le public, bien sûr, Arnaud en a parlé, et puis aussi un truc récurrent, très récurrent, l'éloge vide, hein, bien sûr,
Ah ça.
souvent des quarts de finale qui commencent devant des stades à moitié vide, des
Mais
demi-finales parfois
ça
commencent
pourra
aussi.
pas changer ça. Ça ne
Ça,
changera
si, il
jamais.
suffit de que
Faire
les
quoi?
publics, ce qu'il fait quoi, comme à l'Open d'Australie et à l'US Open, les loges sont au milieu des gradins, pas en
Donc,
bas.
ok, donc voilà ce que je veux dire, ok. Donc tu dois un peu retaper le stade
Ah ouais,
et
c'est
l'installer,
ça.
relever. Ok, très bien. Non, mais
Je
c'est la
pense
seule
qu'il
solution.
y en a déjà à certains endroits à Roland-Garros, mais pas assez. Il y a trop de loges encore en bas où les gens vont déjeuner, donc reviennent à 15 h et souvent il y a des débuts de match,
Mais
même des matchs importants
même,
qui sont.
il y a des partenaires qui invitent des clients à eux qui ne viennent pas, tout simplement.
Voilà, il y a des
Ça
gens qui ne
va
viennent pas.
jusqu'à là. Alors,
Quand on voit qu'il y a
pas sur
beaucoup
les
de gens
tout
essayent
derniers
de.
jours, mais globalement.
Et qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'avoir des places et qui n'y arrivent pas,
Ouais,
c'est
bien sûr.
extrêmement décevant. Parce que quand tu regardes les tribunes d'en haut, elles sont toujours pleines.
Ouais.
Et c'est là que vient l'ambiance d'ailleurs. Donc c'est dommage. Regardez Wimbledon. Est-ce que vous avez déjà vu un quart de finale, demi-finale Wimbledon sur le central débuter avec des places vides? Moi, jamais,
Non.
jamais, 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 jamais.
Et
Donc.
je dirais même plus loin que toi, plus que les loges, c'est même en tribune présidentielle, les premiers rangs sur les quarts de finale, demi-finale, il y avait beaucoup de places vides et c'est très dommageable parce qu'évidemment le plan de la caméra les montre de manière évidente en début de partie,
C'est
surtout.
vrai que la présidentielle est très grande en plus.
Ouais.
Je pense que la Royal Box à Wimbledon, il y a moins de place que sur la présidentielle de Roland-Garros. Et on la voit peut-être aussi moins. Mais voilà, ça c'est quand même un écueil récurrent, j'ai envie de dire. Et alors, à Amélie, peut-être de trouver des solutions, c'est pas évident, évidemment, hein, parce que c'est des partenaires, c'est de l'argent. Mais quand même, pour l'image du tournoi, c'est toujours quand même dommageable.
Alors, autre petite polémique, vous n'en avez pas parlé. Je voulais poser ce débat sur un thème aussi qui a divisé Roland-Garros, c'est faut-il continuer les sessions de nuit à Paris? C'est une spécificité des autres tournois du Grand Chelem en Australie et à l'US Open, mais est-ce que ça prend vraiment en France, à votre avis? Juste pour rappel, les sessions de nuit ont été mises en place surtout pour bon, maximiser les gains, évidemment, en changeant le public et aussi en changeant le diffuseur télévisuel. Bon, ça, c'est l'air du moment. Difficile de leur jeter la pierre, parce qu'Eurosport étant aussi un ancien diffuseur, mais au-delà du débat de l'accessibilité des matchs à la télé, est-ce que pour vous, les joueurs sont vraiment pour cela à Paris?
Déjà, moi qui suis vieux, Sébastien, quand j'étais plus jeune, que j'étais un ado, Jones, moi j'ai acheté un billet pour Roland Garros. Et je pouvais voir des matchs de 11h du matin jusqu'à la fin des matchs. Et je trouvais ça quand même super. Moi, si on m'avait dit à un moment donné, il faut se barrer parce qu'il y a une autre session qui arrive, ça m'aurait fait mal. Bon, après, on allait aussi sur les annexes, etc. Pas que
Voilà,
sur la
tu peux
centrale.
rester, mais pas sur le central, c'est
Voilà.
différent.
Et
Attention.
les annexes étaient beaucoup plus accessibles aussi à ce moment-là que maintenant, ils sont pris d'assaut, il faut faire la queue pendant des plombes. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, il y a un côté là-dedans. Alors là, c'est le poète hein, qui parle. Hein. C'est très pragmatique. C'est pas du tout pragmatique, je veux dire. C'est vraiment là. Moi, je suis un type, je suis du signe cancer, donc c'est le rêveur qui parle. Mais moi, j'aime pas trop ce côté scindé. Côté maintenant, vous devez partir du stade parce que ce sont d'autres gens qui arrivent. Donc, vous allez voir un match, mais pas deux. Pour moi, c'est pas comme ça que ça devrait être. Alors après, la night session, elle arrive effectivement tard, alors que celui qui est là depuis 11 heures, il a peut-être envie de partir quand même. Alors la météo cette année n'a pas posé de problème. Souvent à Paris, il fait frais quand même tard comme ça. Les derniers, il faisait carrément froid. Bon. J'ai pas trouvé ça. Je trouve pas que ça s'impose forcément d'abord parce qu'il y a qu'un match et un match c'est peu. Donc d'où la polémique. Match féminin, match masculin, bah oui, mais la polémique. J'en ai pas parlé quand vous avez fait le Deep Impact là-dessus, mais elle est où la polémique? Un match féminin peut durer 48 minutes. Si c'est 1 et 2 en 48 minutes, le public, il a payé un billet pour ça. Donc c'est
Match
pour ça, déjà,
masculin, ça peut
rien que
durer une
pour
heure et
ça,
demie
oui,
aussi.
bah ça, il y a quand même 3 sets minimum. Ça, déjà, ça me plaît pas de vendre des billets pour un truc qui peut être un spectacle extrêmement court. Alors après, aux gens de choisir, hein, je suis d'accord. Enfin, si tu vas voir une pièce de théâtre ou un concert, au moins tu sais que ça va durer à peu près une heure et demie au moins. Donc
Et
là, là-dessus déjà,
après.
et le public, et le public, il y en a qui a souvent été désastreux. Alors vous parliez de mon fils, ok, c'est un match de mon fils, c'était incroyable et tout, mais c'est aussi un public de tennis incroyable hein, en général. Hein. Enfin, pas tout le monde, bien sûr, mais une grande partie de gens qui sifflent dès qu'un joueur demande à vérifier une marque, qui sifflent quand il jette sa raquette, qui sifflent quand il va demander un truc à l'arbitre. Qui siffle quand c'est l'adversaire du français. Enfin, ça, c'est odieux. On n'a pas envie de ça. Il y a déjà le public australien qui est en train de changer, avec également des gens ivres et d'un moment de bière et qui connaissent plus rien au tennis, alors qu'avant, c'était vraiment le pays du tennis. On n'a pas envie d'avoir ça non plus à Roland-Garros. C'était déjà un peu le cas avant. Et je trouve que c'est exacerbé en night.
J'ai cru comprendre surtout que les joueurs n'étaient pas vraiment pour jouer des sessions de nuit à Roland-Garros parce que ça peut quand même durer longtemps, ça crame aussi les organismes. Et on est quand même arrivé aussi au point où il y a une journée où la session de jour s'est finie à 16 ou 17 heures, quand même. Les trois premiers matchs ayant été expédiés.
Oui, non, mais c'est un vrai problème parce que la terre battue est une, j'ai envie de dire, une surface vivante. C'est pas comme le dur. Et même si ça peut changer aussi avec, même si avec le jour, les conditions de jour, par exemple, à l'Open d'Australie sont plus rapides que les conditions de soirée, évidemment, parce qu'il fait plus chaud et que les balles vont plus vite dans l'air. Mais sur terre battue, c'est encore plus accentué. C'est-à-dire que le soir, l'effet du lift a plus grand-chose à voir avec ce qu'il est en début de journée, en milieu de journée, tout ça. Et donc les joueurs sont très frileux à l'idée d'y aller en soirée parce qu'ils ont peur de perdre le rythme du tournoi, ils ont peur de pas avoir les mêmes sensations et d'être complètement désorientés. Et quand je parle de joueurs, c'est la majorité et surtout des meilleurs. Et j'en veux pour preuve les déclarations d'Iga Świątek, qui est interrogée sur le sujet, sur le fait qu'il y ait peu de matchs féminins en night session, donc 1 sur 10 cette année comme l'année dernière, disait qu'évidemment c'était dommageable en termes d'image pour le tennis féminin, mais que de son côté, elle serait sûrement pas la meilleure avocate de ses collègues parce qu'elle avait réclamé à jouer tout le temps de journée.
Bah, t'imagines si elle avait été programmée pour son troisième tour contre Wang? 6-0, 6-0,
Oui,
6-0.
bien sûr, non,
Sympa,
mais
sympa la night session.
le match
c'est
de
compliqué.
session nuit dont tu parlais, c'était Sabalenka Stephens, hein, c'était le deuxième dimanche de la quinzaine, pour
Ouais.
précision. Arnaud, je te sens un peu dubitatif par rapport à ça.
Non, non, pas du tout. Je le suis pas du tout, Seb. Au contraire, moi, je suis totalement favorable, en fait, au night session. Et c'est marrant parce qu'avant qu'elle n'existe, je me rappelle justement de ce débat sur le fait que sur terre battue, ça puisse altérer les conditions de jeu. Moi, je pense que c'est la même chose, en fait, en Australie, où tu as des changements assez importants de température entre le jour et la nuit. Enfin, c'est quand même considérable même ce qui peut se passer, et forcément ça a un impact sur ton matériel, sur les balles, sur les conditions de jeu globalement. Donc ça, moi je pense que ça c'est pas un sujet, on doit s'y habituer, c'est comme ça. Après, est-ce que tous les spectateurs qui viennent ont envie, comme Bertrand, de passer toute la journée de 11h à 22h au stade? Je suis pas certain non plus. C'est aussi un argument, c'est-à-dire qu'à un moment, tu bouffes du tennis, tu es content de faire 4, 5, 6 heures, tu es peut-être content de partir au bout d'un moment. Donc, qu'il puisse y avoir deux sessions, je l'entends aussi. Évidemment que la dimension économique est importante. Moi, je trouve ça sympa de pouvoir mettre un match en focus, un match phare comme ça par jour, en night session, en faire un peu la promo. Et le seul sujet, en effet, c'est homme ou femme. Et c'est le seul débat. Mais pour dire, est-ce qu'il y a, enfin, voilà, le sujet du débat, night session ou pas, moi, je suis totalement pour. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça très cool, au contraire, très sympa. Et même en tant que joueur, j'imagine, en essayant de me mettre à leur place, que ça doit être un gros kiff de se faire ce gros match. Je sais pas, qui est peut-être le match le plus important de la journée quand même. Donc, je sais pas, il y a ce truc un peu important que je trouve génial, et en tant que Français, ça doit être top. En
Non, mais
plus, c'est à
ouais,
Rouen.
je l'entends et tout ce que je dis tout ce que j'ai dit avant toi, c'est paradoxal avec ce que j'ai dit en tout début d'émission, c'est-à-dire que pour moi le match de la quinzaine c'était Memphis Baez parce que justement c'était en night session parce que il y avait un public fou parce que Gaël. Donc ça c'est le paradoxe. Maintenant tu dis que le débat c'est homme-femme et j'ai envie de dire que le débat qui s'étend encore plus c'est un ou deux matchs en night session.
Ouais.
Le problème, c'est comme Amélie Mauresmo l'a dit en conférence de presse d'après tournoi, de bilan de tournoi, à Paris, c'est compliqué avec donc la terre battue qui fait que de toute façon les matchs sont potentiellement plus longs et le réseau de transport. C'est-à-dire que
Ouais, complètement.
tu
Non, mais
peux
je suis
pas dire
d'accord
aux
avec
gens,
ça.
tu peux
Bien
pas dire
sûr.
aux gens, ok, pas de problème. Vous pouvez voir deux matchs en night session et vous en aurez pour votre argent. Sauf qu'après, vous vous débrouillez parce qu'il n'y a plus de transport. Et donc, moi, ça me fait dire que Paris, que Roland-Garros n'est pas fait pour les night sessions,
Ou
n'est pas
alors mettre
fait
à ce
pour ça.
moment-là deux matchs en parallèle, si, c'est-à-dire mettre un match homme et un match femme, deux soirées, histoire
D'accord,
de
mais à ce
contenter tout le
moment-là,
monde.
tu l'as fait commencer à 19h,
Oui, mais là,
la
Amélie
night
Mauresmo
session.
te dirait que
Eh
les
oui.
gens qui viennent le soir ne sont pas dispo à
Exactement.
partir de
Donc
19h, mais
en fait, il
plutôt
n'y a pas de
après le
solution.
dîner, donc 21h.
Donc en fait, il n'y a pas de solution, sauf la solution dont parlait Laurent Vergne, c'est-à-dire qu'avec le tournoi sur le Long Lane, il y en aura potentiellement deux maintenant, des
Ouais,
night sessions.
on
Et
alterne.
donc
Ouais.
là, du coup, tu auras forcément peut-être un peu plus de matchs féminins que lors de ces deux éditions-là. Mais bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui vient voir une night session, donc qui a payé cher parce que c'est des billets chers, et qui se retrouve avec un match féminin qui dure 50 minutes, et pas plus, parce qu'on ne pourra pas faire de match, comme l'a dit Amélie Mauresmo, si on ne commence pas en tout cas avant 20h15, et ben on tourne en rond, quoi. Le
Alors,
problème, on ne le résoudra pas.
petit conseil pour nos auditeurs, l'année prochaine, achetez des billets pour entrée générale à la cour annexe pour les 5 premiers jours. Voilà, là
Ouais,
vous allez
ah
vous
oui,
régaler.
ça c'est sûr.
Voilà, là vous allez vous régaler.
En tout cas, Arnaud, là-dessus, si pour toi il n'y a pas de débat, il est hors de question qu'on revienne là-dessus, sur les
Bah, je
sessions.
crois, ouais. Je crois,
Mais
après, attends, attends.
de toute façon,
Une idée,
économiquement, on ne peut pas revenir.
juste une petite chose aussi sur les night sessions, parce que ça fait quand même souvent débat. Et là, j'ai élargi le débat pas uniquement à Roland-Garros, mais en Australie, on a eu un record à 4h35 du matin. Les deux joueurs étaient donc éliminés, y compris le vainqueur. À l'US Open, on a eu du 2h40 du matin, si je ne dis pas de bêtises. C'est similaire. Il n'y a pas longtemps, à Rome ou à Madrid, je ne sais plus, on a eu encore aussi des horaires absolument grotesques. Et le tennis, c'est le seul sport où on peut jouer comme ça, 2 heures du matin, tranquillement, 3 heures du matin parfois. Et c'est grotesque, c'est ridicule, puisque ça décale complètement le joueur qui va s'imposer. Il y a en général plus grand monde à la fin. À l'US Open, j'ai souvent vécu ça. Ceux qui sont tout en haut descendent, qu'il n'y a quasiment plus personne dans le stade parce qu'il y a trop de
T'as
monde.
raison, sur l'heure
Et
limite,
voilà, bah oui.
t'as raison, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut soit l'avancer un peu, mais tu peux pas finir à 3h du mat. C'est impossible avec la récup derrière, c'est comme si tu faisais une nuit blanche. Enfin, je veux dire, tu te couches à 6h du mat, c'est impensable sur un grand chelem avec la volonté, enfin en tout cas l'ambition d'aller plus loin. C'est impossible, ça c'est sûr. Non mais voilà, moi je dis juste que si tu commences à 19-20h et que tu fais qu'un match, tu finis pas à 4h du mat. T'as un toit, tout va bien. Voilà, c'est tout. Et ce truc-là, je trouve que, ouais, je trouve pas ça déconnant. C'est juste ce que je dis.
Mais de toute façon, sur le plan économique,
Mais je pense pas qu'à ça. Moi,
Pour
je
le
pense
tournoi,
pas
mais
au tournoi.
toi non, mais je pense que pour le tournoi, c'est
Ah, mais pour le
très
tournoi, bien
important.
sûr, bien
Mais
sûr.
ils
Enfin,
reviendront
d'autres
pas là-dessus, c'est
solutions.
pour ça qu'il n'y a pas de, il y a pas de débat, entre guillemets.
Nous, on a le droit d'avoir cette opinion parce que justement, on tire pas
Voilà.
les cordons de la bourse, hein,
Exactement.
sur le tournoi.
On n'a pas la gestion.
Non, mais tu vois, il pourrait y avoir une session, enfin qu'une seule session, mais peut-être avec un match not before 19h30 qui reviendrait au même, ça m'irait. Et pour moi, ça serait, c'est comme si c'était une net session. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas sur le modèle économique. Je trouve ça sympa de dire un match not before 19h30 où tu sens qu'il y a quand même une influence qui sera de toute façon présente, très forte, avec la dimension de l'ambiance qui sera aussi très, très présente probablement. Ouais, c'est tout. Donc là, je suis même pas sur le modèle économique.
Justement, j'étais en tribune de presse comme Maxime pour la finale homme, au premier rang, donc il y avait devant du public. Le monsieur qui était devant nous nous a parlé gentiment. Voilà, et je lui demandais un petit peu, il est venu avec ses deux fils. Et je lui dis, ça vous fait un budget de combien pour la finale? Il m'a dit, ben, 260 x 3. Donc ça fait quand même un budget de 780 euros. Pour faire un cadeau à ses fils, c'est sympa. Mais espère avoir une belle finale dans ces cas-là, quand même. D'ailleurs, il espérait grandement avoir un quatrième set. Mais
Non mais
malheureusement,
d'accord, mais
à la fin du
attends.
deuxième, je lui dis
Ouais.
non. Non, non, mais
Djokovic.
attends, mais sur ce sujet, sur ce... Non mais attendez, sur ce sujet, on peut pas y aller comme ça. Je veux dire, tu veux aller voir un match de NBA, tu sais combien ça coûte?
Non, mais j'ai pas dit
Enfin,
que.
tu
J'ai
sais
pas
combien?
ça,
Non
je
mais
te dis que. Non,
ça coûte 3 fois plus.
mais je dis qu'il y a un
Le
risque.
mieux.
Il y a un risque pour la personne
Non
qui
mais
prend.
sur
Voilà.
le prix, tu vas avoir enfin une finale de Roland. Enfin,
Puis
si
t'as
tu
la.
veux commencer à comparer, je t'assure, on n'est pas plus cher que beaucoup beaucoup d'autres sports. À comparaison un petit peu égale, tu vois, sur des événements majeurs.
Et tu as
Je
une
crois
donnée
pas.
historique aussi, indéniable. Regarde l'année dernière, Nadal qui gagne son 14e Roland-Garros. Il n'y a peut-être pas spécialement match face à Rude, et pourtant, ça a marqué plein de gens, même si le match n'a pas duré autant. Tu
Et le prix de la bouteille d'eau est marquant aussi.
vois.
Ouais. Ça,
Mais t'as
c'est
des
tout le monde
frigos qui te
vivant.
prennent gratuitement les bouteilles, malheureux.
Ah
Voilà,
non,
t'attends qu'il
j'ai
pleuve et
menteur.
t'ouvres la bouche.
C'est terminé, on n'a plus le droit. Non, non, pour les raisons écologiques, on n'a plus le droit d'avoir des bouteilles d'eau. Donc c'est faux, monsieur Di Pasquale. Nous avons acheté nos bouteilles.
Vous les volez, Bertrand, je vous ai vu.
Venir avec une gourde.
Gourde,
Et
allez,
c'est. Voilà.
anticipé. Voilà. Bon.
C'est RSE, c'est comme ça.
Bon, alors on va clore ce chapitre Roland-Garros qui n'a décidément pas fini de nous faire parler. On va parler maintenant de la saison sur gazon qui va rythmer nos journées jusqu'à Wimbledon. Wimbledon qui se tiendra du 3 au 16 juillet. Donc avant cela, c'est parti pour 3 semaines de compétition, de mise en jambe, d'ajustement pour aller jusqu'à donc Londres qui accueillera Wimbledon. Et cette semaine, par exemple, vous pourrez suivre le tournoi de Sartogenbosch aux Pays-Bas sur Eurosport, ainsi que le tournoi de Stuttgart. Mais avant, première question qui me brûle les lèvres, parce que je sais que tu es spécialiste, le marronnier de chaque année, sans doute. Comment préparer au mieux le passage terre battue gazon?
C'est à moi là.
Bah oui,
Toi, le
c'est
grand
toi qui
spécialiste
t'appelles
du gazon.
pardon, le spécialiste, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, tu vois, quand on parle gazon, hop, je tourne la tête et je me dis, tiens, on doit pas s'adresser à moi, en fait.
Pourquoi est-ce que c'est tant redouté ce passage
Non,
déjà?
mais Maxime, Bertrand et moi, je crois que les deux sont bien plus spécialistes que moi, même
Pourquoi t'aimais pas
en tant
ça
que
alors à ce
joueur.
moment-là?
Non, mais parce que j'ai jamais compris, parce que j'ai grandi au Maroc sur terre battue et j'ai jamais compris que la pelouse était faite pour jouer au tennis, quoi. Voilà, tout simplement. Mais comment tu te prépares sur gazon? Tu sais, c'est beaucoup plus facile de passer de la terre au gazon que l'inverse, hein. Le plus dur, c'est de passer sur terre, hein, faut pas se tromper. Donc, il y a beaucoup moins d'échanges. Tu dois être plus bas sur les cannes, évidemment. Les rebonds sont différents, ça glisse, il faut faire attention. Tu mets tes petites chaussures à picots. Et puis voilà. Mais globalement, après, c'est pas compliqué en soi, même. Enfin, je veux dire, dans le fond. Et je pense que c'est même pour la plupart des joueurs, c'est beaucoup plus facile. Ce passage, il est presque assez simple. En 2, 3 jours, tu t'es adapté. Après, t'aimes ou t'aimes pas, c'est un autre sujet. Mais alors que la terre, tu mets beaucoup plus de temps. Ça demande de la patience, les glissades, la dimension physique et tactique, évidemment. Enfin, c'est très complexe. Mais dans ce sens, tout se passe bien, hein. Moi, je crois pas
Tranquille.
qu'il y ait de soucis majeurs.
Musculairement, tu souffres quand même un peu quand même. C'est pas les mêmes muscles
Bien
qui sont
sûr, mais
sollicités.
c'est l'histoire de 2, 3 jours quand même. C'est un peu d'explosivité. Une fois que tu as les courbatures, après, elles passent et puis c'est terminé, hein. Tu vois, c'est évidemment très différent. Mais je crois que c'est plus facile quand même dans ce sens. Beaucoup
En
plus
tout cas,
facile.
il y a plein de joueurs qui ont zappé la saison sur Terre pour revenir justement sur gazon, qui permet en tout cas davantage de revenir plus facilement à la compétition. Alors, il y en a plein comme ça des revenants. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, hein. Il y a Kyrgios qui sera à Stuttgart cette semaine.
Berrettini aussi, mais lui, bon, il a perdu au premier tour contre Sonego, comme quoi c'est pas si simple que ça. Murray aussi, qui a gagné son premier titre sur gazon depuis 7 ans sur le Challenger de Surbiton la semaine dernière. Alors,
Et
c'est
là, il est en
bizarrement.
challenger encore.
Exactement.
Ouais.
Et c'est bizarrement passé inaperçu parce qu'au même moment, Djokovic qui apparaît son 23e titre grand
Bizarre.
chelem, mais bon, c'est anecdotique. Et il sera donc à Nottingham, c'est ce que tu disais, Bertrand?
Oui, mais tête de série numéro 1.
Voilà. Et aussi, alors, un retour, on n'avait pas vu venir, celui de Milos Raonic, quand même, qui jouait plus au golf ces 2 dernières années qu'au tennis, qui se disait même fini pour ce sport. Et le revoilà avec une victoire sur Kecmanovic au premier tour. Donc là, pour le coup, c'est à Sertogenbosch. Ancien numéro 3 mondial, finaliste à Wimbledon. Hop là, comme ça, il revient. C'est
Ça fait
assez
penser
improbable.
à Halloween. Ça fait penser à Halloween au vendredi 13, hein. Ouais, il meurt jamais le méchant là, celui que t'as plus envie de voir. Ouais, tu dis, allez, cette fois-ci, il va pas revenir celui-là. Et bing, il revient quand même encore une
Bah,
fois pour te
tu es
hanter.
dur, c'est pas un méchant, hein,
Dur! T'as envie de voir les matchs d'Aronic?
Non, mais c'est
Ah.
il a le droit de revenir
Rien
jouer au
que
tennis
son
s'il veut.
service, déjà, t'as envie de te. Non, te... Non, c'est.
Bon.
Non, 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 c'est. Non,
Est-ce que
non,
vous
ouais,
voyez
c'est spécial. Ouais.
parmi tous ces joueurs-là, lequel vous voyez tirer son épingle du jeu
Moi, il y
sur
en a deux.
gazon à Wimbledon?
Il y en a deux. Et deux curiosités pour moi, parce que c'est. J'ai des interrogations en même temps. C'est Kyrgios et Murray. Alors, Kyrgios, pourquoi? Parce qu'il a fait sa seule finale de Grand Chelem l'an passé à Wimbledon. Et on sait comme il est capable en deux, trois. Même pas, j'allais dire deux, trois matchs, mais même pas. J'ai envie de dire en deux, trois jeux sur gazon de se remettre à niveau et de retrouver un tennis assez délicieux, fait de fulgurance. Et donc, il est toujours très attrayant à voir jouer. Et il va commencer sa saison. Littéralement, commencer sa saison à Stuttgart. Parce qu'il n'avait même pas pu disputer l'Open d'Australie devant son public à cause de son genou. Donc, c'est vraiment une curiosité de voir dans quel état physique il va être et dans quelle disposition d'esprit il va être. Mais s'il est dans les mêmes dispositions d'esprit que l'année dernière, je pense que ça peut être un challenger redoutable et qu'il va amener encore du piquant à ce Wimbledon avec cette participation parce qu'on l'attendait. On l'attendait même à Paris, même ça aurait été pour un tour, mais il avait prévu de jouer Paris, mais il n'a pas pu à cause de sa blessure. Et puis le
Attends,
deuxième.
avant de passer à Murray, Arnaud, tu
Ouais.
penses que Kyrgios peut vraiment embêter, hein, parce qu'en fait, on va se focaliser après sur Djokovic, sur Wimbledon. On attend tous de savoir qui pourra éventuellement l'embêter. Kyrgios pourra en faire partie, alors que justement, il est censé commencer sa saison maintenant, si tu
Ah,
sais.
facile hein, comme question hein, ça. Oui, c'est possible parce qu'il est... Enfin, voilà, il a cette folie en fait. Il a la folie même de pouvoir le
Exactement.
croire, de pouvoir le croire simplement. Alors que tu en as beaucoup qui se raisonneraient et diraient, non mais attends, j'ai pas beaucoup joué, je manque de confiance, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Lui, je crois que voilà, il arrive, je vais mettre des services, je vais tenter des contre les jambes, je vais leur mettre des lattes et je vais les exploser. Il y a ce truc un petit peu
Comme Ronitch,
complètement
quoi.
déconnecté qui lui permet probablement, je pense, mais après, est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il y parviendra, c'est un autre sujet, hein,
Ouais, c'est un autre sujet. Et
c'est pas
puis,
facile, hein.
il faut que physiquement et dans la
Ouais.
tête, il revienne au top
Faut
d'ici
qu'il ait l'envie,
Wimbledon.
hein,
Voilà, il
aussi.
faut qu'il ait l'envie.
Lui, il
L'envie
marche,
va l'avoir. L'envie va l'avoir, mais
prendre.
de jouer.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en plus. Je pense qu'il va vraiment avoir envie de jouer.
Vrai qu'il est
Après,
frais, pour le coup.
ouais, il est frais physiquement, mais mentalement. Mais est-ce que ça va suffire? Effectivement, c'est limite. Après, c'est pas le genre de joueur à qui il faut non plus 50 tournois
Non,
pour être bien.
évidemment. Mais.
Moi, ce qui me fait dire qu'il peut être un danger, encore une fois, s'il est à 100%, s'il est au même niveau que l'année dernière pour Djokovic, c'est que l'an passé, il arrive en finale contre Djokovic, il n'a pas eu sa demi-finale contre Nadal. Et je pense que ça n'a pas été un bien, en fait, pour lui. Parce que ça l'a fait gamberger pas mal de temps sur cette finale. Il était bien physiquement,
C'est
mais
pas
je
mal pendant un
pense.
set et demi, quand même.
Oui, justement. C'est-à-dire qu'il est bien pendant un set et demi. Mais en même temps, c'est une finale et voilà. Et puis, il n'a pas eu le rythme qu'il aimait avoir
Tu
depuis le
crois
départ.
vraiment que ça devrait changer quelque chose?
Je sais pas, je sais pas,
Déjà, il
mais
n'aurait
je
pas forcément
pense.
gagné contre Nadal.
Non,
Et
mais je pense que justement, il a la mentalité, en tout cas la mentalité pour y arriver. Et ça, c'est très différent de 95% des joueurs et même d'Alcaraz à Roland-Garros,
Mais sur la finale, ce
pour
qui
le
s'était
coup.
joué, c'est surtout que Djokovic, au bout d'un moment, a réussi à le retourner, à le relancer. Et à partir du moment où il a commencé à le relancer, bah, le match était plié.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Hein. J'ai juste, si je peux un peu amuser 2 secondes quand même nos auditeurs, je vais juste faire deviner aux gens, enfin montrer pourquoi Arnaud était un vraiment spécialiste du gazon, en vous citant juste les quatre joueurs contre lesquels il a le plus de confrontations dans sa carrière, qui sont vraiment, vraiment des attaquants purs et durs: Alex Calatrava, Gallo Blanco, Guillermo Cañas et Albert Portas. On peut y
Parmi
ajouter
les gars que j'ai joué le plus.
Christian Ruud et Nicolas Lapentti. Vous comprendrez à quel point Arnaud était un immense joueur d'herbe, bah, qu'il a joué très très souvent sur cette surface, puisqu'il n'a finalement joué que 95 matchs de moins sur herbe que sur terre battue, avec 99 matchs sur terre et 4 matchs sur gazon, dont une victoire. Il a gagné un match, Arnaud, contre qui t'as gagné sur gazon? Important,
Sur
ça.
Hipfel.
Ah, magnifique!
Ouais,
Bravo.
et tu sais contre... Non mais attends, là en revanche je vais au bout. Dis contre qui j'ai perdu, parce que ça c'est classe.
Alors là, j'ai pas.
Ah, tu veux que je le dise? J'ai joué Edman à Wim. Ça
Ah,
c'est pas
Kilo,
dégueu.
Kilo il fait.
Ok? C'est pas
Central ou
dégueu.
central ou 1?
Sur le 1. Et tu
Ouais.
sais quoi? Pour la bonne blague, je crois que j'ai perdu en 4-7. Et je crois que j'ai mené en 7-3-1.
Oh,
Ouais, bah
c'est
alors...
énorme, c'est
Et j'ai
énorme.
perdu, et attends, c'est pas fini, et j'ai perdu sur Philippe Houssis,
Ouais.
où je me rappelle qu'il commençait à faire nuit, et pareil, j'ai réussi à gagner un set, et au quatrième, je crois que ça fait 2-0 ou 3-0, je me dis, bon, j'ai aucune chance,
4
et je
6
crois que...
7 6 6 3 6 0. Je
Et
l'ai
tu
dit, t'avais
vois,
battu Hipfel 6 1 au 5e au premier tour,
ouais,
effectivement.
un petit
Demi.
5-7, un bon match de terre.
Ah ouais.
Merci, merci
Phénoménal.
Bertrand, en tout cas,
Tim
c'est très
Edman.
sympa, en tout cas, de
Tim Edman. Ah ouais,
valoriser
tu
le
prends le
soutien.
troisième sur Edman. Voilà. Et à Certain Game Boy, tu as joué un match contre Pavel aussi. Voilà.
Oh, c'est trop fort, Pavel, sur gazon. De toute façon, sur gazon, tout était trop fort. C'était pas jouable.
Bon, désolé, c'était pour. Non, c'est surtout
Merci.
les adversaires. C'est surtout quand on voit les adversaires que tu as le plus joué,
Ben
on se rend
oui.
compte quand même que tu es un peu plus terre battue, quand même.
Ah, j'ai plus joué
Ça, c'est
Vicente que...
indéniable. C'est indéniable. Et un petit mot pour finir concernant Murray. Alors, est-ce qu'il
Ouais.
faut le prendre vraiment au sérieux cette
Moi,
année?
je pense que oui. Je pense que l'an dernier, ça a été une vraie frustration pour lui parce que il avait fait une belle prépa sur gazon. Il avait fait une finale à Stuttgart, notamment battue de peu par Berrettini. Et il est arrivé, malheureusement pour lui, un petit peu blessé à Wim, mais il n'avait pas pu donner sa pleine mesure. Je pense que le gazon est vraiment la surface sur laquelle il peut encore faire une percée. Jusqu'en deuxième semaine. Alors, après, jusqu'où, ça dépend de son tableau, évidemment, ça dépend de plein de choses. Mais il a vraiment le tennis pour et il aura tout le public derrière lui. Et voilà, si le physique suit,
C'est la question en fait, parce que
c'est potentiellement la surface qui peut le magnifier. Oui, c'est la question, mais je suis assez, je vais pas dire optimiste, mais je suis pas pessimiste sur le fait qu'il tienne physiquement parce que en Australie, en début d'année, il nous a montré que sur la longueur des 5-7, il était encore là. Et avec des matchs épiques contre Berrettini, Kokkinakis et même le troisième qui perd, je crois que c'était Bautista Agut, hein, c'est le troisième tour qu'il perd, il me semble. Il résiste pendant 4-7 de manière assez incroyable. Donc je pense que physiquement, il a ce qu'il faut et techniquement, sur gazon, c'est quand même un régal, le Murray. Donc il y a un petit bémol, c'est son statut de non-tête de série pour le moment. Alors est-ce qu'avec les tournois de préparation, il va arriver à gagner suffisamment de points pour être tête de série à Wim? C'est un enjeu pour lui, clairement. Mais voilà, je pense qu'il peut surprendre encore Andy Murray.
Je disais physiquement parce que tennistiquement, Arnaud, on a l'impression qu'il n'a pas perdu grand-chose, hein. Il reste toujours assez magique sur un cours. Ou non?
Oui, si, mais c'est pas le même non plus quand même, attention, hein. Et ça se joue un petit peu dans tous les secteurs, je trouve. Donc après, oui, il est dangereux parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut se transcender, être sublimé par un événement.
Un peu
Et
comme mon
après,
fils, en fait,
non, mais si,
non?
non, mais on peut pas dire
Ouais, mais
ça.
après,
On va dire qu'il n'a pas
jusqu'où, je sais
perdu.
pas.
Pas dire qu'il n'a pas perdu, il a perdu, il a perdu, il a
Il a
perdu en
perdu,
puissance, il a
bien
perdu en
sûr qu'il a
puissance, il y a
perdu.
énormément. Donc il a beaucoup plus de mal à finir les points, ce qui explique d'ailleurs qu'il gagne les matchs beaucoup plus difficilement. Il a perdu au service aussi. En retour, il a avoir aussi un petit peu moins de vitesse, de coup d'œil, enfin peut-être pas le coup d'œil, mais de réactivité qu'il n'avait à l'époque. C'était quand même
Ouais,
un
mais tout
événement
ça,
pour lui en ce
c'est
moment.
musculaire, c'est évidemment
Donc,
musculaire.
bah oui, mais non, mais je veux dire, il a quand même perdu,
Mais il a
pas mal
forcément
même.
perdu partout, dans tous les secteurs. Après, ce qui lui permet de tenir, c'est la tronche. C'est là où il est très fort.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il gagne plus, il
L'expérience.
gagne plus jamais un match facilement, quasiment. Donc,
Alors,
si
non, mais
on
on
lui le
parle pas
donne,
de,
il
je
a...
sais pas, on parle de quoi? On parle d'aller jusqu'où? Enfin, après, c'est
Je sais
toujours
pas,
pareil.
moi je le vois pas aller très loin. Hein. Parce que même
Ben
s'il
moi non
fait
plus.
5-7, 5-7, il va peut-être faire encore deux matchs où le central va être comme un dingue, comme c'est le cas depuis 2-3 saisons maintenant, où il va peut-être s'en sortir effectivement, et puis tout au troisième, et il n'y aura plus la caisse et les cannes pour aller plus loin. Donc ouais. C'est des barreaux d'honneur, on va dire, pour Andy Murray, c'est normal, c'est Wimbledon, il a gagné deux fois, c'est chez lui. Mais moi je suis pas très optimiste, même pour un parcours jusqu'en deuxième semaine.
Alors, quel joueur, pour finir vraiment cette fois-ci, quel joueur, avant que la saison vraiment ne batte son plein, quel joueur vous voyez tenir tête à Djokovic, puisque ça sera lui le grand favori de Wimbledon à l'heure actuelle, on est le 13 juin, savoir voilà, qui éventuellement pourrait l'embêter sur gazon.
Non mais je comme ça là tout de suite j'en vois pas. Enfin pour alors donc faut que j'aille prendre une liste et chercher et éventuellement te dire bon il peut être
Medvedev,
approché.
Sinner, peut-être, non?
Non.
Personne.
Medvedev c'est sûr que non. Je crois pas. Enfin c'est sûr que non. Il y a rien qui est sûr évidemment. Enfin mais t'aimes bien quand on dit c'est sûr. C'est pour ça que je dis c'est sûr. Mais Sinner non plus. Non je le vois pas. S'il a la motivation, s'il est bien dedans, s'il est bien physiquement, bon voilà bien dans la tronche et bien dans son corps. Bah, il n'y en a quand même pas beaucoup qui peuvent l'arrêter, je crois pas. Enfin, comme ça, je vois pas. Donc,
Il a gagné les quatre dernières éditions de Wimbledon. Hein. Donc c'est devenu le roi là-bas et il a pris la place de Federer. On peut dire que 2019, c'est un petit hold-up, mais à part ça, il s'est baladé. Hein. Il s'est baladé en finale, Djokovic, en
je sais pas, peut-être que
2019.
Laurent dirait peut-être le retour de Félix, je ne sais pas.
Probablement. Probablement. Attends, Kyrgios, il est tête de série ou pas?
Oui. Non, mais un Kyrgios en feu, moi, il n'y a que lui qui
Ouais,
peut
mais du
perturber un
coup, il n'y
peu
a pas de Kyrgios avant le
Djokovic.
troisième tour. Et le troisième tour, c'est déjà trop tard. C'est à la limite un Kyrgios au premier tour qui passe 90%, 95% de première. Bon.
Non, troisième tour, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que Djokovic, sa dernière grosse désillusion à Wimbledon, c'était 2016 et il perd au troisième tour, après Roland-Garros, hein, qu'il avait gagné pour la première fois en 2016. Il perd contre Anderson, il me semble, au troisième tour.
Anderson.
Donc,
Ouais. Bah
faudrait un
écoute.
Hurkacz en fait qui sorte.
Ah, c'est marrant que tu dises Urkach, j'ai pensé un petit peu
Ouais.
hier, effectivement,
Mais il est tête de
ouais.
série, Hurkacz. Il sera
Oui,
tête
tête
de
de série,
série.
bien sûr,
Oui, il est
oui,
tête de
ouais.
série.
Ah
Faudrait qu'il puisse le jouer avant
Urkach,
les
il peut
huitièmes.
l'embêter, ouais.
Urkach, c'est un peu un profil, ouais, qui peut l'embêter un peu, mais embêter, mais pas gagner.
Mais pas Raonic. C'est ça qu'il faut comprendre.
Au premier tour? Oh, au premier tour,
On peut faire
si.
un Raonic de Djokovic au premier tour. Ça, c'est
Gagner
cool.
un
Il a.
premier set sur un Djoko
Il
pas
a.
encore réglé sur le gazon, il peut gagner un set, ouais, tie-break.
Ouais, mais c'est paradoxal, hein. Enfin non, c'est pas paradoxal, mais il a jamais inquété Djokovic,
Bien sûr que
Raonic, la
non, c'est le
confrontation.
meilleur
C'est
relanceur
sa
du monde,
plus
donc
belle,
c'est ça. C'est
sa plus
ça.
belle période, donc.
Ah
Sa plus grande arme, elle est annihilée, en fait. Sa plus
oui.
grande arme, elle est annihilée.
Et comme dans le jeu, il n'y a pas photo. Voilà.
Voilà.
Mais c'est comme face à Murray, c'est pareil, face au grand Murray. Voilà, il n'y avait pas photo non plus entre Murray et Raonic. Non, mais la question est très bonne, hein, mais sans réponse, j'ai l'impression. On
On va
sera du
voir
mal à.
l'évolution et l'avancée de chaque joueur. Il y en aura peut-être un qui sortira peut-être plus du lot que les
Mais
autres.
c'est-à-dire
On
que
verra.
tous les meilleurs. Alors, si, il y en a un qui pourrait, s'il le souhaitait, s'il se disait pas dans la tronche qu'il est nul sur gazon, c'est Tsitsipas qui pourrait être un bon joueur de gazon. Mais je sais pas, il a décrété que, comme il est né aussi sur Terre, comme Arnaud, mais lui en Grèce, il a décrété qu'il n'était pas bon sur le gazon.
Alors
Donc.
attention, attention, il y a eu quand même une évolution l'année dernière.
Oui, il a gagné un
Il a
tournoi
gagné un
sur.
tournoi et c'est pas
Voilà.
seulement ça. Il y a eu un troisième tour complètement fou contre Nick Kyrgios. Qu'il a fait dégoupiller, certes, mais ça a été un match d'une qualité. Pour moi, c'était le match de la quinzaine de Wimbledon l'année dernière, hein, ce Tsitsipas-Kyrgios. Donc
Ouais.
je pense qu'il a fait des progrès. Je pense que mentalement, il a fait des progrès. Maintenant, est-ce qu'il a la tête au tennis en ce moment?
Oh. Au contraire. Il se sent bien.
Non, pas de gossip, Maxime. C'est pas le but de l'émission. En tout cas, Tsitsipas, lui, sera à suivre à Stuttgart cette semaine. Il sera donc tête de série numéro 1. Cette semaine, vous pourrez suivre le tournoi de Sertogenbosch tous les jours sur Eurosport avec un beau plateau également. Daniil Medvedev, Yannick Sinner, Hugo Humbert, numéro 1 français notamment, et aussi Milos Raonic, hein, alias Gérard Majax pour les intimes. Les quadras et plus sauront de quoi je parle. Et vrai enjeu pour Hugo Humbert, c'est d'être tête de série à Wimbledon. Il est tout prêt, il est 36e mondial.
36e mondial, tout à fait. Voilà, ça sera le mot de la fin, de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien écouté les conseils d'Arnaud pour bien jouer sur le gazon. Enfin, sans vous faire mal, parce que le gazon ne sert pas que à orner les jambes.
3 mètres derrière la ligne, hein.
Surtout.
Et n'hésitez pas à nous laisser des messages et aller taper la balle, ça fait du bien. Allez, à bientôt messieurs.
Ciao, ciao, merci beaucoup.
Ciao, ciao. Bonne saison sur le gazon.
À la prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.